en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, bienvenue dans notre émission en habit vert. Un habit vert aujourd'hui endossé par Marcel Pagnol. On prétend parfois qu'un écrivain à succès, après sa mort, doit en passer par 50 ans de purgatoire avant de voir son œuvre revenir en faveur ou disparaître à jamais. Marcel Pagnol n'est pas de ceux qui entrent dans cette catégorie. Mort le 18 avril 1974, sa notoriété et son actualité sont restées intactes. Il figure toujours dans les programmes de l'éducation nationale et ses œuvres les plus connues sont régulièrement portées à l'écran, le grand comme le petit. Le public leur réserve à chaque fois le meilleur accueil. Élu à l'Académie française, c'est le 27 mars 1947 qu'il prononça son discours de réception. Il succédait à l'auteur dramatique Maurice Donnet, qui avait occupé ce 25e fauteuil pendant près d'une quarantaine d'années, tout en continuant d'écrire des pièces à succès, interprétées à l'époque par Réjeanne, par Cécile Sorel ou encore Lucien Guitry. La réception de Marcel Pagnol sous la coupole dans l'immédiate après-guerre fut l'occasion de faire pénétrer pour la première fois une caméra de télévision Quai Conti. Elle ne devait guère y revenir que pour filmer la réception de la première femme élue à l'Académie française, Marguerite Yourcenar, en 1981. L'Académie ayant préféré attendre la fin de la guerre et la libération du territoire avant de procéder à de nouvelles élections, le nombre de fauteuils vacants s'élevait à 15 quand l'auteur de Manon des Sources fit acte de candidature. Ce 27 mars 1947, c'est au romancier Jérôme Tarot qu'il revenait d'accueillir Marcel Pagnol sous la coupole. Il le faisait avec beaucoup d'esprit, en ces termes. « Je suis très heureux, monsieur, de vous accueillir parmi nous. D'abord parce que vous avez beaucoup de talent, et ensuite parce que vous êtes un homme heureux. » Et Tarot de souligner que ces deux qualités auraient pu être préjudiciables au romancier provençal et lui attirer d'inévitables jalousies, voire même lui fermer définitivement les portes de l'Académie. Et pourtant, comme le note Jérôme Tarot, le public, lui, ne s'y est pas trompé dans l'immense applaudissement qu'il lui a donné à travers tous les pays du monde. « Il me semble, note Tarot, que je vois assembler autour de vous tout ce peuple gracieux sorti de votre imagination, les Marius et les Césars, les Panis et les Fanny, les Topazes et les Merlus, la femme du boulanger, Angèle et combien d'autres. Tous ces santons marseillais qui sentent l'ail et la lavande, les coquillages et le pastis, les nostalgiques odeurs du vieux port, tout ce monde jovial, emporté, mélancolique, aussi près du rire que des larmes et de la tragédie que de la comédie. Nous les connaissons tous par cœur, vos héros tragicomiques, et nous savons tous leurs sentiments, leurs petits secrets, leurs petits travers. » Ce goût pour le petit peuple, les métiers de bamboche et ce sens de la destinée, Pagnol les tire très probablement de son étonnante généalogie. Ainsi que le rappelle Jérôme Tarot, les ancêtres du nouvel académicien étaient en effet établis à Tolède comme armuriers. Chassés par l'Inquisition en raison de leur appartenance religieuse, ils durent alors fuir vers la France où, d'Espagnols, ils devinrent les Pagnols. Abandonnant la forge au XIXe siècle, un aïeul vint s'établir à Lyon comme maître appareilleur de pierre. Cet artisan illettré, grand-père de l'auteur de Topaz, avait un tel respect pour le savoir qu'il voulut que chacun de ses 6 enfants fût instituteur. Et c'est ainsi que naquit, en février 1895, le petit Marcel Pagnol, fils d'instituteur en poste à Aubagne, aux portes de Marseille. On se souvient que Pagnol lui-même était instituteur, avant d'être nommé répétiteur, puis professeur au lycée Condorcet à Paris, prenant ainsi la suite d'un Auguste Devancier, le poète Stéphane Mallarmé. C'est là, en 1924, qu'il écrit, en collaboration avec Paul Nivois, sa première pièce, intitulée « Les marchands de gloire ». Elle ne devait être jouée que 13 fois au Théâtre de la Madeleine. Se souvenant de ses débuts difficiles, que Pagnol lui-même évoquait avec humour, Jérôme Tarot racontait l'anecdote suivante à propos de ces marchands de gloire. « Vous eûtes, m'avez-vous dit, plus d'éloges que le spectateur. Et le 13e et dernier jour, cependant, près de 100 personnes d'un coup envahirent le théâtre. Hélas, hélas, ce n'était qu'une caravane de cooks qui s'était égarée chez vous et qui, dès la fin du premier acte, s'empressa de courir ailleurs chercher son divertissement. Arrive Jazz, première comédie à succès, qui permet à Marcel Pagnol de demander un congé à l'Éducation nationale et de voir venir. Par une habitude contractée très tôt et dont il ne se départira jamais, il écrit ensuite deux comédies dans le même temps, Topaz et Marius. Topaz, satire des mœurs politiques qu'on aimerait croire de l'époque, est joué en 1926 et obtient un triomphe. La pièce vaut à son auteur une renommée internationale car elle est reprise dans le monde entier. En 1929, on joue Marius. Pagnol n'a encore écrit que quatre pièces, mais déjà, on remarque un thème qui, chez lui, sera récurrent. Le choix pour ses héros entre une vie mesquine et pure et une existence de facilité et de jouissance immédiate. On n'imagine pas aujourd'hui combien le succès fut éclatant et instantané pour Pagnol au premier soir de Topaz. D'ailleurs, comme le disait André Roussin, nul auteur dramatique depuis Edmond Rostand n'avait connu une gloire théâtrale comparable à celle de Pagnol au lendemain de Topaz. Il n'avait alors que la trentaine, mais le jeune répétiteur d'anglais était devenu en une soirée, après la générale de sa pièce, le nouveau grand auteur français. Le succès chez Marcel Pagnol s'explique, selon Jérôme Tarot, de la manière suivante. Un auteur dramatique, c'est un homme qui s'adresse à 1000 indifférents, toujours prêts à bâiller. Il faut donc que dans un temps très court, avec des moyens limités, il emporte l'adhésion de tout son monde. Or, pour l'auteur de Topaz, le vrai théâtre, c'est le théâtre qu'on joue, et non pas un théâtre de bibliothèque. Il lui faut donc entraîner son public et faire en sorte que celui-ci ne résiste pas au mouvement ou à la vie que l'auteur insuffle à chacun de ses personnages, à chaque acte et à chaque scène. La trilogie de Marius en 1929, Fanny en 1931 et de César en 1946 ne fait pas autre chose que de reprendre cette règle d'airain. Elle montre que le maître de Marseille s'inscrit dans la veine des Daudet et des Mistral. Jérôme Tarot le note « Avec Topaz, vous aviez prouvé que vous étiez un dramaturge né. Avec votre œuvre marseillaise, vous vous êtes élevé au rang d'un grand peintre de votre terroir. » Au menu peuple de Marseille, qui pourrait sembler d'un comique un peu facile, un peu vulgaire, vous avez donné par votre art une humanité générale. Peintre de Marseille, Pagnol l'a été à plus d'un titre, c'est vrai. Mais c'est à un cadrage plus précis qu'il faut procéder. C'est du vieux port de Marseille qu'il s'agit, à l'abri du bar de César, loin de la pègre que Pagnol a voulu ignorer, se focalisant sur les Marseillais de vieille et bonne souche et peignant une petite vie de bonne humeur, de sentimentalité candide, de fureurs vides apaisées. Pagnol a été un illusionniste sincère, dans l'œuvre duquel chacun sait discerner dans les propos de son voisin ce qui est vrai ou faux. En sorte que l'on peut dire qu'à Marseille, personne ne ment à personne. Et suivant le mot d'un comédien, Rému pour ne pas le citer, on ne ment pas, on exagère. Mais c'est aussi par le biais du cinéma, le cinéma parlant, comme on disait alors, que Pagnol va peindre sa chère Provence. Jouant de ses succès à la scène parisienne, il entreprend parfois presque en temps réel d'adapter au cinéma ses pièces de théâtre. Ainsi de Topaz, qui jouait sur scène en 1926, est adapté au grand écran en 1932, avec Louis Jouvet dans le rôle titre et une jeune débutante du nom d'Edwige Feuillère. Ainsi de Marius, joué en 1929, adapté 2 ans plus tard. Ainsi de Fanny, joué en 1931, mais tourné pour le cinéma dès l'année suivante, et ainsi de suite. C'est que Marcel Pagnol a été l'un des premiers, avec Sacha Guitry, à comprendre l'essor que le cinéma devenu parlant peut connaître auprès du grand public et jusque dans les moindres campagnes, là même où l'on ne se rend jamais au théâtre. Il est d'ailleurs amusant de noter que certains des comédiens que le grand public associe d'emblée aux films de Pagnol n'ont eux-mêmes pas toujours cru à l'avenir de ce nouveau médium. Ainsi, Rému, présent dans le film Fanny, aurait dit un jour à Pagnol « Ton truc de photo qui parle là, c'est certainement très intéressant, mais ça n'est qu'une attraction, vois-tu, bonne tout au plus pour le Luna Park. » Et pourtant, véritablement passionné par le cinéma, Marcel Pagnol en apprend durant 2 ans la technique auprès de la Paramount. Le cinéma, il est vrai, le lui rendit bien, puisque on prétend que l'adaptation de Marius fut un succès tel qu'en 3 semaines de projection, le film rapporta 15 millions de francs de l'époque à son auteur. Très vite, Marcel Pagnol prend l'habitude d'adapter chacune de ses pièces et il enchaîne alors les tournages. Fanny, César, la femme du boulanger, la fille du puisatier, Angèle, Merlus et surtout ce bijou qu'est le Schpounz, comédie douce-amère qui dépeint les milieux du cinéma et la fascination qu'ils exercent sur le grand public, avec autrement plus d'esprit et de légèreté que le regrettable France la Douce de Paul Morand. Pour un comédien tourné avec Marcel Pagnol, ça devient bientôt l'assurance de toucher un grand public. Et, encore une fois, un public qui ne va pas au théâtre, mais c'est aussi la certitude de participer à un film à succès, avec tous les avantages qui peuvent en découler. Tout le monde connaît la tirade de Pomponnette dans La femme du boulanger, ou la tirade du condamné à mort, récitée par Fernandel dans Le Schpounz. Une équipe de fidèles forme un peu la pléiade d'acteurs soudainement étiquetés Pagnol, de Rému à Louis Jouvet, de Fernandel à Orane de Mazis, sans oublier bien sûr Pierre Fresnay. Mais Pagnol n'est pas seulement l'auteur de pièces à succès où des centons provençaux défilent au son des fifres, un verre d'anisette à la main, dissertant sur les difficultés du quotidien et remettant toujours au lendemain d'homériques et chimériques exploits. Pagnol, il est aussi l'héritier des moralistes français du XVIIe siècle, et il dépeint chez Marius comme chez Fanny, chez Angèle comme chez Topaz, des êtres qui se révèlent soudain bien faibles face à la tentation, ou qui sont capables des pires turpitudes pour atteindre leur but ou échapper à un quotidien trop morne. Le fait que tout cela se passe sous l'implacable soleil de Provence, quand l'herbe est brûlée par l'été et que les cigales épuisent leur dernier chant, fait de l'auteur de Manon des Sources et de Jean de Florette le chantre des tragiques de la Grèce antique et le digne héritier d'Eschyle ou d'Euripide. Comme le montrera tout à l'heure l'extrait terrible que nous lira le comédien Fernand Guillot, dans lequel on apprend que le papé, sans le savoir, ayant tué Jean de Florette, découvre quelques années plus tard que c'est son propre fils qui l'a tué. La religion n'est guère présente dans l'œuvre de Pagnol. C'est que l'instituteur, fils d'instituteur, avait été élevé dans le culte païen du dieu laïcité. Pourtant, ainsi que devait d'ailleurs le dire le cardinal Danielou, à qui revint la charge de l'éloge funèbre rendu par l'Académie française à Marcel Pagnol le 26 avril 1974, Pagnol se rattachait à une tradition républicaine quelque peu anticléricale, mais non pas étrangère à l'Évangile. Et Danielou de dire combien l'Académie aimait la simplicité de Pagnol, révérée d'ailleurs par l'intéressé comme une vertu. Il l'avait gardée au milieu de succès éclatants dont il s'étonnait lui-même dans sa modestie. Il restait proche de tous. Il était parisien et homme de terroir. C'est un des secrets de sa réussite. Il a porté au niveau de l'universel les figures familières de sa Provence natale. Homme d'esprit et observateur amusé de ses contemporains, c'est bien le même Pagnol qui confiait un jour aux jésuites qu'en tant qu'ancien instituteur, il avait un peu hésité avant d'accepter qu'on ne baptisât de son nom un lycée de Marseille. Vous comprenez, je n'aurais jamais cru que mon nom figurerait un jour sur des milliers de feuilles de retenue, avait-il confié au cardinal Danielou. C'est à René Clair, lui-même cinéaste, qu'il revenait de succéder à Pagnol au 27e fauteuil à l'Académie française. Tu es chez toi sur cette terre dont tu as chanté naguère les tapis de thym, les térébintes pleins d'oiseaux et la douce lavande des garrigues. Sur cette terre dont tu étais le fils et dont tu es aujourd'hui la gloire, s'exclamait René Clair lors de cet hommage rendu par l'Académie à Pagnol.